Bonjour, bienvenue sur RDIVOA dans l'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur 107.5. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 15 de l'étoile polaire, 14, 15, on est où Pierrick, tu te rappelles?
Non.
Bon, bah voilà, en tout cas on en est là et on est content de vous retrouver sur RDIVOA. Dans le studio, on a Pierrick.
Salut.
On a Amandine.
Salut.
Et on a Axel.
Oui, salut.
Alors bonjour à tous, on va vous parler d'astro en ce dimanche matin. Alors, le sommaire de l'émission. On va commencer, comme d'habitude, par le ciel ce soir. Un petit tour du ciel et de ce qu'on peut observer à l'œil nu ou au télescope en ce moment. Ensuite, on fera un petit point d'actu sur la sonde Osiris-Rex, qui est partie à la rencontre d'un astéroïde pour en prélever un échantillon et le ramener sur Terre. Ensuite, je ferai un petit point d'astro. Cette fois, on va parler de la précession des équinoxes. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, mais on va développer le sujet. Et pour ensuite, ce sera la pause musicale. Ensuite, Pierrick, tu vas continuer ta...
Ouais, je vais continuer ma session sur les êtres humains dans l'espace. Et là, je vais faire sur les stations spatiales.
Ouais.
Et je vais le faire en deux fois, parce que il y a des choses à dire.
D'accord. Et ensuite, on conclura l'émission avec toi, Amandine.
Ouais. Alors moi, je vais vous parler des femmes dans l'espace aussi.
Dans l'espace, dans l'astronomie. Ce sera la deuxième partie de ta thématique sur le rôle des femmes dans l'astronomie.
Tout à fait.
Voilà, pour ce sommaire. Alors, on va commencer. Axel, je te laisse la parole pour le ciel ce soir.
Oui, pour le ciel ce soir. Ce soir, pour cette semaine, on va dire, la Lune est quand même très présente. Alors, j'ai choisi un objet relativement lumineux. Même si bon, c'est une galaxie quand même, mais une galaxie assez lumineuse de magnitude 8, qui est la galaxie du Sculpteur, qui est donc dans la constellation du Sculpteur, qui est une constellation au sud qu'on voit pas longtemps sous nos latitudes, pendant quelques semaines, à peine quelques mois.
Ouais, elle fait plutôt partie du ciel de l'hémisphère sud.
Ouais. Et en fait, la galaxie du Sculpteur est très haute dans la constellation, elle est presque dans la baleine, en fait, à la limite entre la constellation de la baleine. Donc tout ça, c'est en dessous des poissons, en dessous de Mars en ce moment. Voilà, Mars qui est encore à cette période un phare dans la nuit. En dessous, vous avez la baleine, et vous avez une étoile très brillante qui s'appelle Deneb Kaitos. Et vous continuez à descendre et vous tombez sur la galaxie du Sculpteur, qui est une très belle galaxie spirale, assez lumineuse, assez grande, puisqu'elle fait 30 minutes d'arc, donc en diamètre apparent. C'est la même taille que la Lune.
La moitié, non?
Non, la même. Non, c'est 30 minutes, ouais, okay. C'est ça. Comme la pleine Lune, cette taille d'apparence vue d'ici. Voilà, donc tout à fait accessible dans des télescopes amateurs et un très bel objet.
Ok, merci. Alors moi, quand même, je voudrais partager avec vous, je ne sais pas, cette semaine, ça faisait longtemps que je n'avais pas re-observé le ciel juste à l'œil nu. Parce que ça a été couvert, et là, il y a quelques jours, je suis retrouvé devant chez moi juste à regarder les constellations, et je sais pas, c'était un grand plaisir. Quoi. Ouais. Il y a vraiment, déjà, il y a le retour aussi du ciel d'automne et d'hiver. Mmh. On a quand même le retour du carré de Pégase, d'Orion. Ouais. C'est vraiment beau à voir. Alors, au moment du coucher du soleil, il y a quand même Vénus, petit peu. Qui est assez haute quand même encore, mais qu'on voit au moment du coucher du soleil.
Je crois qu'on a même Mercure en ce moment, pendant quelques minutes après le coucher. Ouais. Mm.
Et on a Mars, qui en ce moment est à côté de la Lune aussi. Donc c'est assez joli à observer dans les poissons, sous le carré de Pégase. Et je sais pas, je voulais juste partager ça avec vous. Je me dis quand même, l'essence de l'astronomie amateur, elle est là, quoi. Au-delà du matériel, au-delà des télescopes, des jumelles, de tout ça, c'est vraiment le balai des constellations dans l'année et le plaisir de les retrouver un an plus tard, en fait, ou six mois, parce que on les voit quand même pendant quelques mois. Mais le plaisir, je trouve, de retrouver ce ciel qui revient tous les ans et de retrouver ces constellations qui sont familières, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui.
Non, je suis d'accord, ça m'a fait pareil hier, vers minuit, un peu avant minuit. Je suis sorti, j'ai vu à l'œil nu, comme ça, juste Orion, Sirius, un peu plus bas. Mmh. Ouais, ça fait plaisir.
C'est plaisir de les revoir, comme vous avez des vieux amis.
Ouais,
un peu, c'est comme ça. Ok, et ben merci Axel pour cette galaxie du sculpteur qu'on vous engage à observer. Là, par contre, c'est télescope. Hein.
Ouais.
À l'œil nu, vous ne pouvez pas.
C'est la NGC 253.
Ok.
Son petit nom.
D'accord. Eh bien, on va continuer avec un petit point d'actualité. Donc, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours. La sonde Osiris Rex, qui est allée à la rencontre de l'astéroïde Bennu. Alors, cet astéroïde, il orbite autour du Soleil, à une orbite qui est légèrement plus lointaine que celle de la Terre, mais pas beaucoup, et qui croise l'orbite de la Terre à certains moments de l'année. Donc, ils ont décidé d'envoyer une sonde sur cet astéroïde. Ils l'ont choisi parce que c'est un astéroïde qui a très peu évolué depuis les origines du système solaire. Donc, en fait, en étudiant cet astéroïde, on a des informations sur la composition originelle du système solaire, sur ce qu'il était au moment de sa formation. Et donc ça intéresse forcément les astrophysiciens pour essayer de comprendre un peu d'où vient le système solaire, comment il s'est formé, comment on arrive aux planètes, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé cette sonde et qu'elle est arrivée, il y a contact, hein, elle est venue jusque sur l'astéroïde et là elle a soufflé. De l'azote comprimé. Alors l'azote ou diazote pour être précis, c'est l'intérêt de ce gaz, c'est qu'il est inerte. Donc il ne réagit pas en fait avec la matière chimiquement parlant. Donc en fait il va pas polluer entre guillemets l'échantillon en l'oxydant ou en interagissant avec lui. Donc c'est pour ça qu'ils ont soufflé de l'azote et donc ça a soulevé un micro nuage de particules qu'ils ont aspiré. Et donc là, ils ont réussi à récolter, tu disais Axel, 400 grammes ou 200 grammes, je sais plus.
En fait, ils ne savent pas exactement. Le but de la mission, c'est d'en récupérer entre 60 et 200 grammes.
Ouais.
Et le sol de l'astéroïde était tellement friable et poreux qu'ils en ont récupéré beaucoup plus, à tel point qu'ils ne pouvaient plus fermer le compartiment de collecte. Enfin, c'était en deux parties. D'abord, il y avait le bras qui collectait et qui ensuite allait mettre ça dans un compartiment sur la sonde. Mais le premier panier, si on peut dire, au bout du bras, ne pouvait plus se fermer tellement ils ont récupéré d'échantillons. Mm. Et du coup, ça commençait à même se vider dans l'espace. Mm. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de faire ils ont préféré sauter l'étape de mesure, de poids, de peser de l'échantillon pour le mettre tout de suite en sécurité dans la sonde. Donc, ils ne savent pas exactement, mais ils estiment dans les 400 grammes.
Donc ça, c'est un succès parce qu'ils voulaient au moins 60. Et donc 400 grammes de matière, bon, ça semble très peu. Mais en fait, il faut voir que c'est le plus gros échantillon de matériaux, on va dire, extraterrestres, hein, au sens qui n'est pas de la Terre, qu'on a prélevé depuis les missions Apollo et depuis qu'on est allé sur la Lune. Où là, on en avait quand même ramené quelques centaines de kilos au total.
Ben oui, à part la Lune, on n'a jamais rien ramené de nulle part. Donc... intéressant, il y a la sonde Hayabusa 2 aussi, qui avait fait la même chose plus ou moins il y a quelques temps, l'année dernière peut-être bien, et qui va rentrer l'année prochaine ou quelque chose comme ça.
Qui rentre en décembre, là. En décembre. Dans 2 mois, oui.
Ouais, donc dans vraiment dans pas mois. Longtemps, ouais. Et elle, pour collecter, elle avait plutôt envoyé un espèce de petit projectile qui avait expulsé de la poussière. Et là, pareil, ils avaient une espèce de petite boîte où c'était tombé dedans.
Ouais.
Mais je crois que les quantités, c'est bien moindre, donc...
Donc là, c'est un succès, hein, cette mission. On le sait, dans le spatial, il y a quand même beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de préparation, une fois sur deux, ça rate. Donc, il faut voir que c'est quand même un énorme défi technique, quoi, de faire ça. Donc, on peut saluer cette prouesse technique. La sonde, elle va rentrer dans 3 ans.
C'est ça.
Septembre 2023. Voilà, et là, on pourra analyser. Je crois qu'il y a une sorte de première analyse qui se fait en vol, une partie des choses qui sont analysées, mais pas tout. parce qu'ils quand même ils peuvent pas attendre 3 ans là, ils gardent un peu derrière leurs ordinateurs, donc il y a quand même un peu d'analyse qui se fait pendant le retour, mais le gros sera fait sur Terre dans les labos quand la sonde entrera. Juste, je mentionne là, quand même la petite difficulté aussi technique supplémentaire, c'est qu'en fait, on a quand même affaire à des manœuvres qui sont assez précises. Il faut s'approcher, il faut souffler, il faut récolter, etc. Mais qu'on ne peut pas piloter ça en direct parce qu'il y a un décalage temporel dans la transmission des signaux. Donc, c'est quelques minutes.
Une vingtaine de minutes. Voilà. Je crois. Donc, parce qu'elle est à 360 millions de kilomètres.
Ouais, elle est de l'autre côté. Donc, c'est difficile de piloter ça. Donc, il y a un moment en fait, où c'est un peu bon, on programme le truc et. Et là, on croise les doigts, on espère que ça va marcher. Et là, ça a été le cas. Mais ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est toujours, je rappelle, hein, mais toujours la même idée. L'information, elle voyage à la vitesse de la lumière. Cette vitesse, elle a beau être immense, 300 000 km par seconde, elle est quand même finie. Et comme on a des grandes distances dans l'espace, on est tout de suite à des décalages de plusieurs minutes. On avait fait une émission sur le temps lumière et sur les distances, enfin sur le temps que met la lumière pour relier les différents objets de l'espace. Et donc, le soleil, il est à 8 minutes. Voilà. Donc, si là, on est derrière, on est de l'autre côté du soleil, ça fait une vingtaine de minutes. Et il y a ce décalage-là que les techniciens doivent prendre en compte parce que, pour réussir leur mission. Voilà.
Oui, c'est ça. Parce que là, quand je dis, ça paraît simple de dire, on prend le bras qu'on ramène vers la sonde pour mettre dans un compartiment sur la sonde. C'est une opération qui a mis une trentaine d'heures, en fait.
Mmh. C'est fou. Et ouais.
Surtout quand il y a un problème et là qu'il faut... prendre des nouvelles décisions, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait
On peut pas être réactif. On a 20 minutes de décalage. En 20 minutes, ça peut être juste complètement l'échec, en fait.
D'où beaucoup d'échecs.
D'où pas mal d'échecs. plus les problèmes techniques potentiels, plus tout ça. Donc, on parlait de ça parce que c'est toujours intéressant quand même de se dire qu'on arrive à aller pelleter un peu de matière au fin fond de l'espace. C'est pas au fin fond de l'espace, on reste quand même au voisinage. Oui. C'est prouesse technique et tout, mais on est toujours en fait vraiment dans la banlieue proche du soleil. On n'a jamais pu aller plus loin que ça pour l'instant. Voilà pour ce point d'actualité. Alors, je vous propose de passer au point d'astronomie. Donc, cette semaine, je vais vous parler de la précession des équinoxes. Alors, c'est un petit peu... ça fait un peu barbare comme terme. je l'ai déjà mentionné dans le passé, mais là, je voudrais vraiment préciser cette histoire. Alors, bon, les équinoxes, ça, on connaît, c'est le moment où, en fait, le jour et la nuit ont la même durée. Donc ça se produit à deux moments de l'année. C'est l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, donc c'est-à-dire 21 septembre et 21 mars, à peu près. La précession des équinoxes, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que le point vernal se déplace. Alors, qu'est-ce que le point vernal ? Le point vernal, c'est en gros, c'est même exactement la position du soleil à l'équinoxe de printemps. C'est-à-dire le jour où sur Terre, on a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, donc autour du 21 mars. Ça, c'est tous les ans pareil. Eh bien, où est le soleil sur le fond du ciel ? Dans quelle constellation il est ? À quel endroit il est ? C'est ça, le point vernal. Et le truc, c'est qu'en fait, ce point se déplace. C'est-à-dire que d'année en année, plutôt de... Alors, c'est des déplacements qui sont infimes, sur des centaines et sur des milliers d'années, il y a un vrai effet, en fait. Et ça, dans l'Antiquité, en fait, ils avaient déjà remarqué cet effet-là. Que le jour de l'équinoxe, le soleil n'est pas exactement à la même place au fil des années.
Tu veux dire qu'à l'Antiquité, sur quelques milliers d'années, ils avaient remarqué que ce décalage,
ils avaient déjà observé
par rapport
ce
aux
décalage.
Étoiles au fond du ciel.
Par rapport au fond du ciel, exactement, qui lui ne bouge pas. Mais le soleil se décale, il n'est pas au même endroit. Donc, alors ça nous amène à pas mal de choses. À quoi c'est dû déjà ? C'est dû, en fait, on l'a dit, la Terre, elle tourne autour d'un axe, et cet axe, il pointe vers l'étoile polaire, en ce moment. Mais le truc, c'est que cet axe, en fait, il précesse. C'est-à-dire que, en fait, cet axe, il décrit, on va dire, un cône, vous voyez ?
C'est comme une toupie à la
exactement.
Fin quand elle
exactement.
Commence
c'est ça,
à
l'image,
tomber.
C'est ce que j'allais dire, Pierrick, bravo.
C'est
exactement comme l'axe d'une toupie. On voyait bien, effectivement, à la fin, elle se met à tourner comme ça. Et à décrire un petit... En fait, le sommet de l'axe se met à décrire un petit cercle. Et en fait, bah, la Terre, elle, elle fait un petit cercle comme ça en 26 000 ans. Donc, c'est ça le cycle de la précession des équinoxes. Et c'est dû à ça. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu mieux pour qu'on comprenne. On va rentrer dans de la géométrie. Donc là, on va essayer d'imaginer le Soleil. Et on imagine l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, grosso modo, un cercle. Une ellipse très arrondie, donc on va dire un cercle. Et l'axe de rotation de la Terre. Donc, la Terre tourne sur elle-même. Elle tourne autour du Soleil aussi. Mais toujours, elle pointe dans la même direction. Alors, essayez d'imaginer cette boule qu'est la Terre, avec son axe toujours dans la même direction et qui tourne autour du Soleil. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est on va prendre le plan qui est perpendiculaire à l'orbite, okay, qui fait un angle droit avec l'orbite et qui contient l'axe de la Terre. Vous imaginez ce plan ? Un plan en géométrie, c'est... on va dire que ce serait comme une table infinie.
Ouais, un plateau.
Voilà, une table infinie.
Oui, voilà, c'est de la géométrie, donc on est dans l'abstraction. Hein, donc voilà, c'est quelque chose de plat. Il n'a pas d'épaisseur, c'est ça un plan en géométrie. Donc vous imaginez, en fait, ce plan il est perpendiculaire à l'orbite, donc il fait un angle droit avec l'orbite et il contient l'axe.
Okay.
Essayez d'imaginer ce plan-là et d'essayer d'imaginer toujours avec la Terre, avec son axe toujours dans la même direction, qui tourne autour du Soleil. Comment va évoluer ce plan ? Et bien, vous allez remarquer quatre positions particulières, en fait. Il y a deux positions où, en fait, le plan va contenir le Soleil. Ce plan va contenir le Soleil. Donc ça, en fait, c'est le moment des solstices, solstices d'été, solstices d'hiver, donc, qui ont lieu donc 21 décembre et 21 juin. Et vous avez deux positions en fait sur le côté où ce plan en fait va être tangent à la trajectoire. Ça c'est les équinoxes.
Ouais.
Okay. À ce moment-là, on imagine bien que effectivement, si l'axe de rotation il est tangent à la trajectoire, et eh ben on va avoir 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Ce qui va pas être le cas dans les autres positions. Donc à partir du moment où l'axe de rotation de la Terre il se déplace, et eh ben forcément en fait. Le Soleil, il sort
du plan, quoi.
En fait, du coup, ça veut dire que sur le plan, l'endroit où ça devient tangent change, en fait, sur l'orbite.
Ouais.
Et donc, que le Soleil apparaît à un endroit différent sur le fond du ciel. Parce qu'en fait, on s'est légèrement déplacé. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est de la géométrie. Il faut arriver à se projeter dans l'espace. pour visualiser tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment des effets... Enfin, quelque part, c'est des effets géométriques qui sont relativement simples. Quoi. Une fois... C'est vrai que là, la radio, c'est pas facile. L'idéal, ce serait d'avoir un schéma pour supporter l'explication. Donc, j'ai essayé d'être clair. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Cet axe de rotation de la Terre, il décrit son petit cycle de 26 000 ans, comme le haut d'une toupie. Et du coup, en fait, le moment où on est aux équinoxes, c'est-à-dire le moment où l'axe de rotation, il est tangent à la trajectoire de la Terre, eh bien, change. Et donc, ça veut dire que le Soleil n'apparaît... Le point vernal, donc l'endroit où le Soleil, en fait, apparaît au moment de l'équinoxe de printemps, se modifie. Alors, ça nous amène presque à de l'astrologie, en fait, tout ça. Parce que, normalement, le début de l'année... on sait que le Soleil, hein, il se déplace dans le zodiaque. C'est ça, le zodiaque. C'est-à-dire, c'est la prolongation du plan de l'écliptique, c'est-à-dire du plan où orbitent toutes les planètes du système solaire. On prolonge ce plan-là vers le fond du ciel. Mmh. Et là, on trouve... Donc 12 ou 13 constellations, selon comment on regarde les choses, mais on va dire 12 constellations où le Soleil se promène en apparence tout au long de l'année et les autres planètes aussi. Donc ces 12 constellations, c'est celles du zodiaque, hein, Bélier, donc le début de l'année astronomique ou de l'année astrologique, c'est avec le Bélier. Et donc on dit que c'est le 21 ou le 22 mars, normalement. Sauf que, en fait, ça, c'était vrai il y a 2000 ans.
Oui, maintenant.
Et maintenant, le début de l'année astronomique, c'est le 18 avril. Donc, c'est-à-dire que le Soleil rentre, donc passe des poissons au Bélier, le 18 avril, et non pas le 21 mars. Donc, vous avez 3 semaines de décalage. Ça, je le mentionne, c'est un des arguments majeurs de la science pour démonter l'astrologie. Ils disent, c'est n'importe quoi, vos histoires, puisque le signe astrologique, c'est censé être en fait la constellation où se trouve le Soleil au moment de votre naissance, au jour de votre naissance. Et donc, si on dit, bah, par exemple, voilà, les poissons, ça finit le 21 mars, eh ben non, en fait, les poissons, ils commencent le 12 mars, ils finissent le 17 avril. Si vous regardez où est réellement le soleil, en fait. Donc, ça, j'en reparlerai parce que c'est intéressant, je trouve, ces liens entre astrologie et astronomie. Ça a toujours été lié, hein, jusqu'au Moyen-Âge, en fait, les astronomes et les astrologues, c'était les mêmes.
Pendant longtemps,
en fait, ils faisaient de la science et ils gagnaient leur vie, en fait, dans la cour des rois en faisant de l'astrologie et des prédictions. C'était ça.
Dans des pays, c'est toujours le cas. Je pense à l'Inde, notamment. C'est toujours d'actualité, quand même.
Oui et non. Parce que il y a des gens en Inde, ils font quand même de la vraie astrophysique. Quoi.
Oui, bien sûr.
Ils ont un programme spatial. Ça doit pas être des astrologues.
Non.
Bien sûr, je sais bien. Mais il y a aussi encore une grosse partie de gens qui regardent les étoiles.
Oui, l'astrologie indienne est très développée.
Voilà,
c'est vrai.
En France, c'est beaucoup perdu.
Du coup, ça veut dire que je suis pas poisson, en fait.
C'est ça.
On m'a menti depuis ma naissance.
C'est ça. Donc là, après, ça, c'est un autre. Mais donc vous pouvez vous amuser, vous prenez, j'en ai déjà parlé, il y a un petit logiciel gratuit là, qui s'appelle Miniciel, qui vous donne toutes les positions des planètes et du Soleil depuis 1900. Vous tapez n'importe quelle date et vous pouvez projeter ça jusqu'en 2100, je crois. Et vous regardez du coup en 2020 ou en 2021, quand est-ce que le Soleil change de constellation. Et là, vous pouvez avoir, si vous avez envie de faire de l'astrologie, parce que, bon vous semble, au moins basez-vous sur des trucs qui ressemblent à quelque chose, quoi, sur une réalité du ciel. Sinon, enfin, en ce qui me concerne, j'estime que ça n'a aucun sens, mais voilà, ça c'est encore un autre débat, l'astrologie, tout ça. On en parlera, on fera une émission, parce que franchement, ça, pour moi, ça mérite d'être discuté. Tout ça, c'est, on ne peut pas juste jeter les choses à la poubelle d'un air hautain et suffisant, il faut quand même discuter un peu, quoi. Il y a des arguments dans les deux sens, donc on le fera à l'occasion.
Mais en tout cas, il y a beaucoup de mauvais arguments aussi contre l'astrologie.
C'est ça, ouais. Il y a des arguments qui sont facilement démontables. Après, il y a aussi des choses où on peut dire, bon, on peut ne pas croire à ça.
Je veux dire, dans les gens qui vont critiquer l'astrologie, ils ont souvent des mauvais arguments, en fait.
Je suis bien d'accord.
D'accord, ouais.
Mais on le fera, ça va présenter l'argumentaire classique de la science contre l'astrologie. Bon, on le connaît par cœur, le connaît bien, cet argumentaire, et on peut effectivement, point par point, le démonter, ou le discuter, en tout cas.
Oui.
Et comme je disais, on le fera dans une autre émission.
Il y a des choses à dire.
Ouais, il y a plein de choses à discuter là-dessus. En tout cas, voilà pour la précession des équinoxes. J'espère que c'était à peu près clair, l'explication géométrique.
Du coup, là, on en est où dans la précession
Et ben là, on en est en fait qu'actuellement, l'étoile polaire, donc c'est, donc on l'appelle Polaris. Voilà. Et Polaris, c'est l'étoile polaire. Mais en fait, Polaris, c'est pas forcément... l'étoile de la petite ours, en fait. Polaris, c'est l'étoile que va pointer notre axe de rotation. Bon. Et là, en ce moment, Polaris, c'est cette étoile de la petite ours. Mais dans l'Antiquité, donc à l'époque justement où toutes ces tables là, du 21 mars, etc., ont été établies, c'était une étoile du dragon qui s'appelait Tuban, toujours. Okay. Et on pointait vers le dragon. Et la prochaine étoile, en fait... Qui va être l'étoile polaire, ce sera dans 2000 ans, ce sera Al-Rahi Gamma Cephe, une étoile de Cephe. Donc une constellation qui est près de la Grande Ourse, mais c'est plus du tout la même chose, quoi. Et dans 2000 ans, donc, on aura l'impression que tout le ciel tourne autour de Cephe, et non pas autour de la petite ours, quoi.
Okay.
Donc voilà, et ça nous amène à une autre notion qui est aussi une notion plus ou moins astrologique, mais qui est la notion d'air. Hein. Vous avez peut-être entendu parler, on parle de l'air du taureau, l'air du poisson, l'air du Verseau. Hein. Enfin, l'air du Verseau, c'était un gros truc de hippie, ça, dans les années 70. Et donc, en fait, si on regarde un peu réellement où se trouve le soleil donc, au moment de l'équinoxe, eh bien, depuis la fin de la préhistoire, en fait, on est dans ce qu'on appelle l'air du bélier. On était dans l'ère du bélier, c'est-à-dire qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil était dans le bélier. Depuis environ 450 avant Jésus-Christ, on est rentré dans l'ère du poisson. Et on y est toujours. Alors que là, en ce moment, vous regardez, au 21 mars, le soleil, il est bien dans les poissons. Et il sera dans les Verseaux aux alentours de 2600-2700. Donc quand on annonçait l'ère du Verseau, etc., non, c'est pas pour tout de suite complètement. Il y en a encore pour 600 ans d'ère du Poisson.
Tu appelles ère du que ça dure aussi longtemps là, c'est
des milliers d'années, ouais. Ben c'est le temps en fait où en fait l'ère c'est toute la période où le Soleil est dans une constellation
au
moment de l'équinoxe de printemps.
D'accord, ok.
Donc en ce moment, voilà, comme je vous disais, en ce moment c'est les Poissons et ce sera toujours le cas jusqu'en 2600.
D'accord.
Là on rentrera dans ce qu'on appellera l'ère du Verseau et tout se décale comme ça. Alors après, il y en a qui font des interprétations là-dessus, 500 avant Jésus-Christ, la préhistoire, comme c'était des, on peut y voir des transitions de l'évolution sur la Terre, etc. On peut partir très loin avec tout ça.
J'ai pas forcément, voyager dans l'espace.
Voilà, j'ai pas forcément le faire maintenant. Mais en tout cas, cette histoire de précession des équinoxes, elle a quand même un vrai impact sur, je trouve, sur la vision qu'on peut avoir du ciel. Et des liens qu'il peut y avoir entre éventuellement le ciel et la terre et la vie sur terre.
Et est-ce qu'on a des traces dans l'Antiquité de comment est-ce qu'ils avaient écrit ça quelque part, la précession, ils avaient...
Alors, je n'ai pas les détails, mais je sais que dans l'Antiquité, ils avaient remarqué ce phénomène.
Ils avaient remarqué ça.
Y a quand même, par exemple, les Égyptiens, ils ont quand même une culture... qui a duré assez longtemps.
Oui, plus de 3000 ans au moins.
Donc, fait, ils ont quand même et puis ils avaient un système d'écriture, etc. Donc, en fait, ils ont noté des observations et ils ont pu observer, à l'échelle de leur civilisation, un décalage. C'est clair que d'une année à l'autre...
Oui, c'est...
ou alors, il faut faire des mesures vraiment extrêmement précises. Mais il faut plus de temps pour ça. Mais clairement, oui, sur 2000 ans, c'est décalé de 3 semaines. C'est pas rien, 3 semaines.
Ouais. Il y en a qui disent qu'il y a des petites facettes sur les pyramides d'Égypte qui seraient liées à la précession des équinoxes.
Tu avais parlé à ça. Parlé de ça une fois. Je t'avoue que ça m'avait laissé assez dubitatif, mais à creuser.
À creuser,
voilà. Donc là, voilà un exemple de thématique où on part de science, mais où ça ouvre quand même sur plein de questions, sur plein d'autres choses. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler un peu de ça aujourd'hui. Et puis on développera plus tard ces liens qu'il y a pu y avoir et qu'il y a encore entre l'astrologie et l'astronomie, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, ne serait-ce que d'un point de vue historique, en fait.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Merci.
Et bien, je vous propose donc une petite pause musicale et on se retrouve après.
Qu'est-ce qu'on écoute, hein?
On va écouter un morceau de la bande originale du film Hair qui s'appelle Aquarius.
Pour l'air du poisson.
Du Verseau. Thank you. Et bon retour dans l'étoile polaire sur RDIWA 107.5, l'émission d'astronomie amateur. Donc on vient d'écouter Hair, le Age of Aquarius, petite dédicace à tous les Verseaux qui nous écoutent.
Un beau message d'amour, je crois.
Un beau message d'amour universel et de foi dans la capacité supérieure de l'être humain à évoluer.
Ouais, on y croit.
On y croit, il faut. Parce... Ouais. Bref, alors, voilà. Donc, on est de retour. Et maintenant, Pierrick, tu vas nous présenter ta chronique spatiale de cette semaine.
Ouais, alors je vais parler des premières stations spatiales. Donc, je vais essayer de le faire en deux parties parce que voilà, y a plein de choses à dire. Donc, les stations spatiales, donc c'est quoi ? Donc, ça a été théorisé en 1903 par Tsiolkovsky, encore une fois un russe. J'en avais déjà parlé un moment. C'est un mec qui a beaucoup théorisé sur beaucoup de choses dans l'espace à cette époque-là. Et donc, c'est le premier qui avait pensé à faire ça pour aller dans l'espace, pour observer les étoiles d'une autre manière, pour conquérir d'autres espaces. Et donc en 1950, Sergei Korolev et Von Braun aux États-Unis et Korolev en Russie, voilà les premières étapes dans les stations spatiales, et voilà les premières étapes intermédiaires pour aller dans l'espace et après plus loin. Donc pour eux, de développer des stations spatiales orbitales, ça permettrait de faire comme une première étape pour aller après sur les autres planètes, etc. Donc c'est pour ça qu'ils trouvaient ça intéressant et qu'ils ont développé ça. Et donc, au niveau technique, ce n'était pas vraiment un problème, même si effectivement, comme on le disait, c'est toujours très compliqué, mais c'est faisable. Mais leur peur, c'était au niveau biologique et surtout humaine. C'était comment l'être humain va vivre dans l'espace.
Réagir, quoi.
Réagir dans une longue durée, un an ou plus. Donc comment il va réagir à la pesanteur sur des longues périodes, toutes les tâches un peu physiques, comment ça va se passer, vivre cloîtré, loin de tout, sans assistance, comment ça se passe aussi.
Psychologiquement, quoi.
Ouais, la cohésion d'équipage, tout ça, c'est plein de questions qui... C'était plutôt ça leur appréhension au niveau des stations spatiales. Donc Korolev, lui, il a pensé qu'il fallait adapter la technologie des sous-marins. Parce que finalement, on est un peu sur les mêmes problématiques pour les adapter à l'espace. Donc, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place. Donc, tout ce qui est pour recycler l'eau, la nourriture, l'énergie, que ce soit solaire ou batterie, voilà, il a changé un peu la technologie des sous-marins pour l'adapter au spatial. Et donc, en 1971, ils envoient Salyut 1. Donc là, c'est la première station spatiale orbitale russe. Donc c'est les Russes les premiers à l'avoir envoyée. Donc ça faisait 90 mètres cubes. Donc c'était plutôt vraiment petit, étroit. Il n'y avait qu'un port d'accès. Et donc le premier vaisseau à y aller, c'est Soyuz 11. Et donc voilà, ils ont commencé un peu à appréhender toutes ces questions. Et à voir comment on vivait sur place. Donc là, c'était des séjours assez courts. Donc en 75, avec Salyut 4, il passe 63 jours. C'était un peu le record à l'époque. À mentionner aussi qu'il y a toujours un aspect militaire. On est toujours dans la guerre froide. Et donc Salyut 3 était équipé d'une mitrailleuse.
Ah oui.
Quand même. Oh, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Quand il y aurait un Américain.
Ouais. C'est fou. Et en 77, donc il y a Salyut 6 et Salyut 7. Et donc là, ça prend un caractère un peu international. Donc notamment, il y en a d'autres, mais notamment Jean-Loup Chrétien qui fait un petit tour sur les stations russes à ce moment-là. Et donc les Salyut 6 et 7, elles sont un peu plus évoluées. Ils ont un peu amélioré les conditions de vie à bord. Voilà, ils ont fait des WC.
Ouais.
C'est pratique. Ils peuvent sortir de la station pour aller inspecter la coque de la station, voir un peu comment ça se passe. Il y a plusieurs ports d'amarrage. Ils développent un cargo Progress, je crois qu'il est toujours en activité d'ailleurs, qui vient faire le ravitaillement régulièrement pour amener des vivres, de l'air, etc. Et là, donc, ils établissent un nouveau record de 237 jours en 79 ou 77, je ne sais plus. Donc, ce qui est déjà pas mal.
Bah oui.
Et dedans, ils font plein d'expériences. Moi, j'en reparlerai un peu plus loin. Et du coup, en même temps, en fait, évidemment, il y a les Américains qui font la même chose avec Skylab. Donc, eux, en fait, suite à l'arrêt du programme Apollo, un peu prématurément, parce qu'il faut savoir que normalement, il y avait 20 Apollo qui se sont arrêtés à 17. Donc, il restait plein de fusées de Saturn V inutilisées. Donc, la Saturn V, c'est l'énorme fusée qu'ils ont créée pour aller sur la Lune. Donc, c'est vraiment un truc énorme. Elle fait 110 mètres de haut. Elle est énorme, énorme. Et donc, ils ont l'idée de réutiliser ça pour en faire des stations spatiales. Donc, ils mettent ça en place. Et bon, c'est un peu similaire aux Russes. Hein. Ils tâtonnent. Ils ont moins de succès quand même. Les Russes s'acharnent plus et les Américains un peu moins à cette époque-là, en tout cas. Ce que j'ai bien aimé dans cette période, c'est que toutes les conversations entre la Terre et la station spatiale, la Skylab, sont publiques. C'est-à-dire que tout le monde peut l'écouter. Ça a toujours été un truc de la NASA.
C'est pas un secret militaire.
Ouais, voilà. Alors là, sauf sur les questions de santé, là, ils bloquaient tout. Mais sinon, c'était toujours public. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les astronautes américains, ils sont soumis à un planning hyper serré, hyper strict. Et en fait, ils n'ont pas de temps libre, si ce n'est une heure de détente avant de dormir.
Ok.
Et si tu veux, au bout d'un moment, ils ont eu des astronautes, ils en avaient ras-le-bol, quoi.
Tu m'étonnes.
Ils se sont dit... du coup, ils appellent la Terre et ils disent non, on en a marre. La première grève de l'espace, quoi.
On n'est pas des rats de laboratoire.
Ouais, je crois qu'ils bossaient comme des tarés. Voilà, du coup, on leur libère un peu de temps libre, parce que finalement, c'est leur maison, ils sont tout le temps dedans pendant X temps. Du coup, à un moment, j'ai vu une photo où ils se font un espèce de sapin de Noël avec deux briquets de broc fait avec les trucs sur place. Il y a une photo sympa sur Internet. Voilà, et puis en 79, Skylab, en fait, s'écrase parce que... un petit peu avant, ils ont vidé la station des occupants et ils l'ont fait s'élever dans l'espace un peu plus en altitude pour qu'ils aient le temps de développer la navette spatiale pour pouvoir y retourner dans 5 ans. Tu vois, donc ils l'avaient élevé en altitude. Mais apparemment, ils se sont gourés dans les temps de calcul, et du coup la station elle s'écrase beaucoup plus vite, elle retombe sur la Terre beaucoup plus vite que prévu, et du coup en 79 elle s'écrase donc elle se désintègre dans l'atmosphère. Elle s'écrase pas comme une météorite sur Terre, mais elle se désintègre et elle s'écrase vers Espérance en Australie, où cette ville, c'était rigolo, elle a porté plainte contre les États-Unis parce qu'ils ont laissé des déchets partout, il y a eu quelques débris. Voilà, petite anecdote. Donc voilà, ça c'est les premières stations qui sont un peu les prémices de Mir et de l'ISS, que je parlerai un peu plus en détail la prochaine fois. Donc qu'est-ce qu'ils font sur place dans ces stations ? Eh ben, ils font beaucoup d'astronomie, ils observent les étoiles, ils font beaucoup de biologie avec des essais sur des animaux. Ils observent beaucoup leur santé aussi, savoir comment ils réagissent à tout ça. Il y a aussi la perception du temps, comment comment ils perçoivent le temps qui passe, parce que il fait jour et nuit de manière très très rapide. Et voilà, ils étudient aussi leur cœur, parce que Et donc se développe le mal de l'espace,
ouais.
Un peu comme le mal de mer. Donc ça, ils savent pas trop comment le gérer.
Comme le mal des montagnes.
Ouais, c'est un truc un peu qui apparaît soudainement, qui disparaît. Apparemment, on s'habitue.
T'as des idées un peu des symptômes ou pas du tout?
Non, j'ai pas creusé plus en détail ça. Ouais.
Mais c'est sûr que sur tout ça, sur les stations, en fait, ce qu'ils étudient le plus, c'est la biologie.
Ouais.
Et l'impact en fait sur les organismes terrestres, humains ou animaux ou végétaux, de la pesanteur et de tout ça, parce que en fait la réalité des expériences réellement scientifiques d'astronomie ou de quoi que ce soit, en fait c'est zéro, et ça n'a aucun intérêt en fait scientifiquement parlant, enfin astrophysiquement parlant, Parce que les observations qu'ils peuvent faire, très bien, mais on a Hubble, on a déjà des instruments qui sont en orbite, donc qui s'affranchissent de l'atmosphère et des problèmes que ça génère.
Pas à cette époque-là.
À l'époque, il n'y avait pas encore. Mais globalement, ouais.
Le bilan
scientifique de tout ce qui se passe dans les stations, en fait, c'est vraiment très léger. Mais sur la biologie, là, oui. Et c'est vrai que c'est clairement ça. Hein. C'est, là aussi, on est un peu dans les prémices de la science-fiction, c'est-à-dire comment l'homme il réagit dans ce nouvel environnement qu'est l'espace. On n'en sait trop rien. Et c'est vrai que les temps où les astronautes sont dans l'espace restent assez courts, mine de rien, à l'échelle d'une vie. Là, on est sur même le record, c'est un an ou un peu plus d'un an, je crois.
Oui, actuellement.
Ce qui est déjà long, hein, mais c'est sûr qu'à l'échelle d'une vie, et après, on peut imaginer aussi si on vit dans l'espace et qu'après, il y a des enfants qui naissent dans l'espace. Comment ça se passe là, c'est encore autre chose. Et là-dessus, on a rien, en fait, on ne sait pas.
Non, ouais, c'est clair.
Mais il y a pas mal d'auteurs de science-fiction, quand même, hein, c'est une thématique aussi. On avait parlé un peu de SF la semaine dernière, mais qui ont essayé de se projeter un peu là-dessus et qui ont imaginé, beaucoup ont imaginé une forme d'évolution, même de l'ADN humain, en fait, pour s'adapter à l'espace. Après, on peut imaginer tout un tas de choses, mais on a cette idée quand même que l'humain qui n'est pas fait pour l'espace, quand il est soumis à ça, il évolue d'une façon ou d'une autre.
Alors, il y a un super livre c'est Michel Schiff. C'est un spéléologue en fait, qui a été s'enfermer dans une cavité glaciaire pendant plusieurs mois. Et du coup, c'est la NASA qui l'a étudié par rapport justement à... Ils estiment que les réactions du corps et de l'esprit seraient égales à quelqu'un qui part dans l'espace. Donc, ils ont collaboré ensemble. Et donc l'isolement, puis avoir aucune notion du temps, en fait, donc comment le corps réagit face à ça, si tu deviens fou ou pas.
Ouais, pas de secours.
Et ouais, puis en fait, il diminue carrément ses rations alimentaires, sans vraiment s'en rendre compte, il le fait par lui-même, parce qu'il n'a plus de notion du temps, plus de lumière, plus rien. Et du coup, c'est les tests, ils s'en sont servis après pour la NASA la réutiliser.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils font aussi, toutes les agences, je pense, font aussi des tests d'isolement sur Terre.
Ouais.
Pour l'apesanteur en moins, ça, quand même, tu peux recréer des conditions similaires.
Ouais. Ça permet aussi de sélectionner, je pense, les astronautes, d'avoir un mental qui permet de résister à ça. C'est clair qu'ils sont tous sélectionnés aussi pour leur santé. Hein. Il faut qu'ils soient en excellente santé, en excellente capacité physique et aussi qu'ils soient vraiment solides psychologiquement. Quoi. Ça, c'est sûr.
Je vais en parler après.
Okay. Après, tu disais qu'en termes de résultats scientifiques, c'est assez maigre, les stations.
Sauf pour la biologie, je disais.
Oui, il y a quelques exceptions, bien sûr. Mais par contre, il y a quand même eu beaucoup d'applications technologiques qui ont été créées pour les stations spatiales et qu'on utilise tous les jours ici, comme le Velcro, comme des petits trucs comme ça, les couches. Les couches Pampers, ça vient de l'exploration spatiale.
Ah ouais.
On a, en termes d'autonomie énergétique, les panneaux photovoltaïques, le traitement des eaux. Il faut savoir que dans l'ISS, ils recyclent une énorme partie de l'eau, de leur sueur, de leur urine. Et tout ça, c'est des choses qui ont ensuite des applications sur Terre.
Ok.
Ouais, voilà.
Ok, merci Pierrick pour cette chronique spatiale. On attend la suite avec impatience.
Oh là là.
Et donc on va passer à la dernière rubrique de l'émission, la rubrique Abrac, avec Amandine qui va poursuivre sa thématique de la place des femmes dans l'astronomie.
Ok, alors moi je vais vous parler de Valentina Tereshkova, qui est russe aussi. Et c'est la première femme à avoir effectué un vol spatial dans l'espace, et seule aussi. Voilà. Et même encore aujourd'hui, il n'y a pas eu d'autres femmes qui ont fait ça. Donc j'ai été chercher un peu pour vérifier vraiment.
Qui sont sorties, tu veux dire ?
Qui ont fait effectué un vol seul en orbite, ouais.
Ah oui, seul.
Voilà. Donc, je vais vous raconter un peu son histoire et comment elle en est arrivée à partir dans l'espace.
Je peux juste préciser quand même qu'il y a aujourd'hui plus non plus d'hommes seuls.
Les
missions en solitaire, c'est fini, on peut dire, quoi, pour l'instant en tout cas.
Ouais, d'accord.
C'est pas un privilège pour ceux qui se disent « Ah bon ?» Et les femmes, non, c'est tout le monde. Ouais. Maintenant, ça se fait beaucoup par trois ou quatre.
Ok, ouais. C'est bien, important. Voilà. Merci. Donc Valentina, elle est née le 6 mars 1937 en Russie, à côté de, à 270 km de la Volga, donc dans un endroit bien perdu. Voilà. Ses parents, ils étaient donc paysans dans une ferme collective, comme ça se faisait bien à l'époque. Et du coup, il y a eu une guerre, la guerre d'hiver entre la Russie et la Finlande. Donc son père est parti là-bas, il est parvenu. Du coup, sa mère, elle a dû aller travailler dans une ville donc, pour pouvoir élever ses enfants. Donc elle a travaillé en tant que... Elle était fileuse dans une usine de coton. Voilà. Donc Valentina, elle a accédé à l'école de ses 10, à, de ses 10 ans à ses 17 ans. Et puis, en fait, par la suite, elle a été travailler avec sa maman. Et en fait, à côté, elle continuait à suivre des cours dans une école technique de l'industrie légère. Donc, elle était diplômée. Et en fait, elle a décidé de rentrer dans un club, un aéroclub, pour devenir parachutiste, pour apprendre le parachutisme. Donc, ce qui était assez rare à l'époque, déjà. Donc, en fait, elle s'est pris de passion pour ça. Elle était très, très douée. Elle a vite grimpé en niveau au bout de 2 ans. Et en parallèle aussi, elle est rentrée, donc elle a adhéré à un parti communiste. C'était une fervente militante, ce qui va avoir un rôle important par la suite.
T'avais pas trop le choix à l'époque.
Non, je crois que t'avais pas beaucoup de choses, tu voulais faire quelque chose.
C'est vrai que bon, là-bas, c'est vrai que t'avais pas trop le choix. Non. Mais bon, c'était, elle était très douée, elle maniait très bien les mots, elle arrivait à parler en public. Et donc dans le parti auquel elle a adhéré, en fait, elle est devenue secrétaire. Elle a pris, elle est vite grimpée en grade, quoi.
Ok.
Donc voilà, donc, c'était une fervente militante, ça c'est sûr. Voilà. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le parti communiste, en fait, a décidé. Ils ont envoyé, ils ont fait une première mission qui s'appelait Vostok 1 et qui a bien fonctionné, où ils envoyaient des gens dans l'espace. Ils en ont enchaîné d'autres à la suite jusqu'à vouloir créer Vostok 6. Donc c'était en fait en pleine période où il y avait une bataille entre les États-Unis et l'Union soviétique de la conquête de l'espace. Quoi. Il fallait montrer qui est le plus fort, qui est le plus performant. Et donc ben, les Russes, ils ont décidé d'enchaîner les missions. Ils ont injecté beaucoup d'argent là-dedans pour montrer leur supériorité dans le monde entier. Quoi. Et donc ils se sont dit, Vostok 6, il faut qu'on envoie une femme dans l'espace avant les Américains. Pour qu'on ait vraiment le monopole et tout. Donc ils ont décidé d'entamer une campagne de recrutement. Recrutement pour trouver une pilote. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas d'école de pilotes. Les femmes n'avaient pas accès à l'école des pilotes comme les hommes. Elles ne pouvaient pas atteindre des niveaux aussi importants en études. Par contre, y avait la solution, parce qu'on te demande de quand même être calé en parachutisme quand tu pars dans l'espace pour pouvoir redescendre. Donc il y a de... pour pouvoir redescendre, quoi. Du coup, ils ont fait le tour, en fait, des aéroclubs en premier recrutement. Et donc, Valentina, elle en faisait partie. Donc, elle a été recrutée. Et leur critère, c'était qu'il fallait donc faire moins d'un mètre 70, 70 kilos. Avoir moins de 30 ans, je ne sais plus. Enfin bon. Et donc, elle avait de la chance, elle rentrait vraiment dans les clous. Donc, elle a été recrutée, retenue. Je crois que sur 400 personnes, ils ont retenu 58 femmes. Et après, ils les ont donc invitées ils leur ont fait faire des tests, dont interview, savoir comment aussi ils parlaient donc de la patrie. Donc voilà.
Et oui, c'était beaucoup de propagande aussi.
Totalement, en fait, c'est vraiment ça. On est complètement dans de la propagande, quoi. Et donc, elle a été recrutée avec 5 autres femmes. Et là, après, ils se sont dit, bon, finalement, ils allaient leur apprendre à piloter une navette spatiale. Donc, elles se sont retrouvées dans une unité militaire avec des hommes pendant presque 1 an, où là, elles ont suivi des entraînements intensifs. Donc, vraiment, au départ, Valentina, ce n'était pas forcément la favorite. Mais par la suite, ils se sont rendus compte que c'était parfait, qu'elle avait vraiment cette capacité à être à l'aise face au public et à parler très très bien, quoi. Donc c'est ce qui a été retenu. Et donc dans les entraînements, ils leur demandaient ils subissaient des entraînements quand même très très intenses. Il fallait aussi avoir un bon physique, quoi.
C'était
un ensemble, quoi. C'est une femme quand même qui part de pas grand chose et qui va assez loin, hein. Elle va dans l'espace. Donc. Voilà, donc des entraînements, par exemple, à devoir faire des manipulations hyper techniques dans des pièces qui subissent des variations de température très élevées, ou très froid, très élevées. de passer du temps dans une centrifugeuse qui imite en fait les accélérations des moteurs au moment où ils vont décoller. Après, voilà, il les isole aussi, donc du coup justement pendant plusieurs jours dans un endroit où il n'y a pas de lumière, où ils n'ont aucune notion du temps, pour voir comment leur mental en fait gère tout ça.
Au mitard.
Au mitard, voilà. Au mitard. Et aussi donc des entraînements intensifs de saut en parachute, donc au-dessus de la mer Noire, avec une combinaison d'astronautes qui fait 130 kilos et tout son kit de secours. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment balèze. Et donc, du coup, bah, elle va être retenue. Donc voilà, elle va être recrutée. Et donc, elle va partir le 16 juin 1963 pour atteindre dans l'orbite. Voilà. Donc en fait, c'est une mission un peu particulière parce qu'elle va partir avec un homme, donc séparément, chacun dans leur navette. Mais c'est un vol conjoint. L'idée, c'est qu'ils se retrouvent dans l'orbite ensemble, et qui communiquent l'un et l'autre. Donc l'homme qui part, il s'appelle Valéry Biokovski. Lui, il va partir, je crois, 2 jours avant, le 14 juin 1963. Et elle part le 16 juin 1963. Donc en gros, elle va passer 3 jours dans l'espace, donc ce qui équivaut à peu près à 70 heures et 40 minutes. Voilà. Et donc, bon, tout se passe plutôt bien, le décollage, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a même une petite caméra à l'intérieur qui est installée pour qu'on puisse tout suivre en direct. Donc, c'est hyper médiatisé. Première femme dans l'espace. Donc là, c'est gros coup de buzz pour les Russes. Et puis, tout se passe plutôt bien pour elle. Voilà, elle n'est pas malade, rien. Mais en fait, au bout de plusieurs heures, voire une dizaine d'heures, il commence à se rendre compte qu'elle commence à être affaiblie. Qu'il y a certaines manipulations qu'elle a du mal à faire, qu'elle mange très peu. Mais ça, il le cache. Il ne faut pas que ce soit su, en fait. Ça sera su par la suite. Ça va faire un peu polémique, d'ailleurs. Mais voilà, donc le mal de l'espace, justement. Donc, il y a même un moment où il se pose quelques questions parce qu'il y a une manipulation qui est plutôt, ce qui est même essentielle. C'est modifier la trajectoire, en fait, de la navette spatiale pour qu'elle puisse retourner, rentrer dans l'atmosphère. Et donc ça, elle n'arrive pas à le faire. Donc il s'inquiète un peu. Et puis finalement, au bout d'un moment, elle va y arriver. Mais au bout d'un moment, c'est au bout quand même de 2 ou 3 tentatives, quoi.
Et donc elle a vraiment les facultés psychomotrices qui sont atteintes, quoi.
Ah ouais, 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 complètement. Okay. Non, mais c'est un truc de dingue, quand même, hein. D'être cosmonaute, astronaute, ouais, c'est...
Seule en plus, c'est ça le pire.
Puis elle a un poids médiatique en fait sur les épaules, je pense, qui est vraiment...
De toute façon, si elle rate, c'est goulag.
Ah bah ouais, c'est goulag. Enfin, les faces, elles n'existent pas, elle a pu exister. Bon. Voilà, elle s'en sort, elle y arrive. Donc voilà, donc en fait, comment ça se passe? Quand elle rentre dans l'atmosphère, en fait, la navette spatiale, quand elle rentre dans l'atmosphère, elle va... lâcher les petits boulons et tout, ça va tout sortir. Et en fait, il va y avoir un parachute à 7000 km d'altitude qui va retenir et ralentir la navette. Et elle, à 4000 mètres d'altitude, elle va sauter en parachute dans un siège où elle est sanglée de partout, quoi. Donc, il faut quand même... C'est quand même du lourd, ouais. Et donc, bah, elle y arrive. Elle s'en sort plutôt bien. Elle y arrive et donc là... voilà, elle est applaudie par tout le monde. Donc elle va voyager, elle va être aussi du coup ça va être la représentation de la libération des femmes dans le milieu socialiste, voilà. Donc elle va vraiment être utilisée comme outil de propagande, clairement. Donc parce que finalement, par la suite, elle retournera pas dans l'espace. Et elle fera carrière politique, du coup, maintenant, quand on recherche un peu, elle est représentée comme politicienne, mais pas du tout comme astronaute. Ah oui. Et même aujourd'hui, elle travaille avec Monsieur Poutine. Voilà, et elle représente un peu la zone où elle a grandi, en fait. Donc voilà. Et elle va même être mariée avec un astronaute, mais ça va être un mariage arrangé parce que ça se faisait bien et que ça présentait bien. Voilà. Donc bon, ben, c'est quand même une sacrée histoire, je trouve. Voilà, donc j'avais envie d'en parler un peu. Voilà.
Ouais,
je sais pas si vous avez quelque chose.
Ouais, non, ça me fait penser que dans les stations spatiales, il y avait que des hommes au départ. Et à cohabiter à trois bonhommes dans 2 mètres carrés, là, et on pouvait plus. Et je trouve qu'après, ils ont mis des femmes, ça a apaisé un peu les ambiances.
Ah ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais, je sais pas, mais. C'est encore quand même assez. Il n'y a pas eu tant de femmes en fait, hein, qui sont parties dans l'espace, hein, si je me trompe.
De toute façon, pendant hyper longtemps, même si ça, c'est un peu moins le cas maintenant, tous les astronautes étaient des militaires.
Oui. Tous, j'allais dire.
Sans exception. Ça. Hein, ça vient, à la base, ça vient quand même de pilotes de chasse, de choses comme ça. Donc à partir de là, il n'y avait pas de femmes.
Ouais.
Enfin, donc, après, petit à petit, l'armée s'est ouverte, etc. Ouais. Et puis quand ça s'est ouvert aussi aux scientifiques, voilà, là, à ce moment-là, les femmes ont pu y aller.
Ouais.
Mais à la base, c'était que militaire, tout ça.
Ouais. Mais bon, après, elle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, derrière, il y a eu un peu de polémique parce que les 4 autres femmes qui avaient été recrutées en même temps qu'elle, ils se sont rendus compte qu'en fait, elles avaient beaucoup plus la capacité physique à gérer ce voyage. Et donc, en fait, dans la recherche, en fait, de comment le corps humain réagit dans un voyage aussi important, parce que c'était quand même aussi le but, elles étaient plus adaptées, en fait. Ils auraient pu aller plus loin avec ces femmes-là. Mais Valentina, elle savait blablater, quoi. Voilà. Donc, du coup, elle a servi à ça, finalement.
Ouais, outil de propagande, comme tu disais. Non, mais c'est intéressant, parce que moi, quand j'entends son parcours, je me demande qu'est-ce qu'elle a choisi dans sa vie, en fait.
Enfin, ah, c'est ça.
Il y a un côté, on n'en sait rien, on n'est pas dans sa tête, mais on a l'impression... c'est vrai que le parcours, il est étonnant, quoi. Partir de fille de paysanne, en fait, dans un colcos, et puis ensuite arriver dans l'espace... C'est sûr que c'est un sacré parcours, surtout pour une femme à l'époque.
Après, dans le recrutement, le fait qu'elle soit fille de prolétaire, paysan, c'était aussi quelque chose qui a fait peser la balance.
Oui.
Et je pense qu'aussi, du coup, pour la politique soviétique, c'était voilà, chez nous, en fait, c'est possible de partir de rien et de devenir quelqu'un.
Presque le mythe américain.
Non, si tu vas avoir des problèmes.
Ouais. Eh bien, d'accord. Écoute, merci Amandine pour tout ça. Je mentionne, ça me fait penser à un film, un vieux film, L'étoffe des héros.
J'ai vu qu'ils avaient refait une série, là.
C'est un film qui doit avoir une vingtaine d'années, en fait, et qui parle justement de... Bon, c'est du côté américain, des premiers astronautes, quoi, et donc des pilotes de chasse, des pilotes d'essai, en fait, plus que pilotes de chasse, carrément des pilotes d'essai. Et donc en particulier il y a un personnage je me souviens qui s'appelait Jaeger, enfin c'est pas un personnage, c'est quelqu'un qui a existé, mais c'est enfin il est à voir ce film parce que les gars c'était des têtes brûlées quand même, enfin c'était quand même, il y a un côté Top Gun, ils avaient pas peur quoi.
Leur boulot c'était
vraiment pousser les machines jusqu'au bout, et ils prenaient des accélérations de fou, ils prenaient des risques énormes, et il est pour ça ce film, je trouve Il est intéressant de voir un peu l'ambiance de l'époque et de voir un peu ce qu'on demandait à ces hommes.
Ouais, ça, tout ce qu'on parle là, ça n'a rien à voir à maintenant. Quoi. Quand je vois le dernier vol de SpaceX où c'est tout automatisé, comparé à ça, c'est...
Puis le matériel, le poids de tout.
Vraiment changé.
C'est sûr.
Dans le film plus récent aussi, il y a 2 ans peut-être, il y a Proxima, film français où on suit une astronaute française qui part pour la Station Spatiale Internationale.
C'est une fiction ou c'est un documentaire ?
Non, c'est fiction, c'est un peu romancé et tout, mais c'est quand même assez réaliste. Quoi. Ouais. C'est tiré de ce qui se passe vraiment. Quoi. Et ça parle du coup de la place des femmes, de la condition de femme dans ce métier. Quoi, De la scène où son médecin qui la suit pendant tout son entraînement, qui lui dit « Et pour vos règles, vous avez choisi, préférez l'interruption ?»« Ah non, je vais garder mes règles. » C'est plus compliqué, hein, vous savez, il essaye de la convaincre, dire « Non, mais faites-vous interrompre quand même. » »« Non, je sais comme ça. » elle est obligée de se couper les cheveux quand même. Voilà, c'est pas mal, un film français...
Parce qu'il y a ça, en fait. Hier, du coup, quand je travaillais là-dessus, j'étais avec une copine qui me disait... je lui disais, toi, ça te dirait pas de partir dans l'espace ? Elle me disait, non, parce qu'en fait, ils nous demandent de ne plus avoir nos règles, parce qu'ils savent pas comment recycler les déchets. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, ils t'imposent un peu ça. Ouais, quoi. Ouais. C'était assez fou. J'étais même pas au courant. Quoi.
Apparemment, elle a le choix. Je pense que ça, ça doit être pareil en vrai, sinon on fait comme ça dans le film, mais ouais, il lui laisse le choix, même s'il essaye quand même de la convaincre que ce serait mieux sans. Ouais.
Mais après, je me demande, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être recyclé comme, comme les excréments
Ça peut être bien, oui.
Ça peut être, dans les premières stations, ils éjectaient tout dehors. Hein,
bah oui. On fait ça partout.
Ça, ils évitent. Ouais, mais ça, ils évitent. Maintenant, il y a quand même des protocoles. Ouais, les boulons explosifs, les trucs comme ça, on a un peu arrêté tout ça et c'est pas plus mal. Quoi, parce que,
non, maintenant, les déchets pas recyclables dans l'ISS, ils sont stockés et renvoyés ensuite sur Terre. Enfin, brûlés dans l'atmosphère, exactement.
Ah ouais.
Ouais, c'est dans notamment dans
les
progrès que tu parlais, dans ces vaisseaux, qui sont en trois compartiments, je crois. Il y en a un qui peut retourner jusqu'à sur Terre, mais il y en a d'autres qui sont prévus pour se séparer pendant la descente et
cramer dans l'atmosphère.
Qui n'ont pas de bouclier thermique. Ouais. Et c'est là-dedans qu'on met les déchets, par exemple, le caca, les astronautes. Ça nous fait des étoiles filantes.
Et d'ailleurs, je pense à ça, c'est que Valentina, en redescendant avec son parachute, elle s'est pris en fait un bout de ferraille du vaisseau qui lui est retombé sur la tronche fait. Ouais, ouais, donc du coup, elle a été balafrée quoi, marquée à vie en fait. Hein.
Ah ouais.
Ouais ouais. Comme
ça
quoi.
Pas dû passer loin.
Faut faire attention quand même des fois.
Ok. Eh bien, merci pour tout ça. On va clôturer l'émission. On espère que ça vous a intéressé. On vous engage une fois de plus à observer le ciel. Là, on est dans des belles journées où le ciel est à nouveau dégagé. On a des beaux couchers de soleil, des belles lumières. Profitez-en, le ciel est magnifique. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.